L'histoire commence un dimanche 10 juin 1979. Le temps est frais et humide, comme si l'été ne semblait pas se décider à arriver. À Paris, on entend au loin le bruit des balles et des applaudissements pour la quatrième victoire consécutive de Björn Borg à Roland-Garros. Et le vombrissement de la Porsche de Paul Newman, qui remporte les 24 heures du Mans. Mais ce dimanche 10 juin 1979, c'est surtout un événement historique qui se joue. Depuis 8 heures ce matin, les bureaux de vote sont ouverts. 180 millions d'électeurs et d'électrices dans 9 pays s'apprêtent à aller voter pour le premier Parlement européen élu. C'est la toute première élection d'une instance supranationale au suffrage universel direct. Cela n'existait pas avant et cela n'a jamais été copié depuis.
Moi, je n'ai pas d'autre idée. C'est la plus belle qu'on a eue.
Qui connaît les élections européennes? Souvent synonyme d'abstention record, de campagne électorale bâclée ou de désintérêt médiatique, les élections européennes sont aujourd'hui l'unique et la plus grande élection supranationale au suffrage universel direct, jamais organisé au monde. Je m'appelle Laetitia Chabanne et je vous emmène dans les mémoires des élections européennes. 9 épisodes pour 9 élections, à travers les témoignages de celles et ceux qui ont participé à modeler ce Parlement européen depuis 1979 jusqu'à aujourd'hui. Chronique intime et singulière des évolutions de notre société européenne. Vous écoutez Europe et sentiments, élections européennes, une histoire sous les radars. Épisode 1, les premières élections européennes ratent leur rendez-vous avec l'histoire. Le contexte. Première élection, 9 pays membres, taux de participation, 61,99%.
Voter.
Qui se souvient de cette élection historique? Eh bien, pas grand monde, figurez-vous. Lorsque je demande à mon papa pour qui c'est le tout premier vote à tout juste 18 ans, il me répond.
Ouais, j'étais très ému. Je me souviens d'un président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, très européen, de la figure de Simone Veil, mais des enjeux européens, non.
Pareil pour mon grand-père et mes tantes, ils s'en souviennent, oui. Ils ont voté a priori, par devoir civique, mais de là à dire que c'était historique, non. C'était une élection comme il y en a eu d'autres. Pour une première, on ne peut pas dire que ça démarre sur les chapeaux de roue. D'ailleurs, la participation le montre, 60% en France, 65% en Allemagne, 47% au Danemark et seulement 32% au Royaume-Uni, on est loin du raz-de-marée. Alors, qu'est-ce qu'on a raté? Pourquoi personne, même pas les têtes de liste, n'ont affirmé le caractère historique de ces élections? Celle qui s'apprête à nous raconter ses premières élections européennes s'appelle Emma Bonino.
Une jeune femme de 31 ans est apparue comme un véritable phénomène politique. C'est une Italienne.
Grande figure de la politique italienne depuis les années 70, elle a aujourd'hui 75 ans. Mais ne vous fiez pas à son âge. Elle n'a rien d'une vieille dame. Bien au contraire. Depuis 2018, elle conduit la coalition centriste Più Europa. Traduction, plus d'Europe. Tout est dit.
Il 10 giugno, per la prima volta nella storia, 180 milioni di europei di 9 paesi eleggeranno insieme il Parlamento europeo.
Mais revenons à ce 10 juin 1979. Emma Bonino a alors tout juste 31 ans et un engagement politique déjà bien prononcé, notamment dans la lutte pour le droit à l'avortement.
Toute ressemblance avec une personne européenne française n'est pas fortuite.
Elle est élue sur la liste du Parti radical italien, parti de gauche, libertaire, antimilitariste et anticlérical.
Pour moi, tout était nouveau. Heureusement, je parlais quelques langues, donc j'ai pu m'orienter d'une façon ou de l'autre. J'étais dans les groupes de non-inscrits, donc je n'avais pas beaucoup de possibilités de parler en plénière. Mais ce n'est pas grave, j'ai passé les premiers temps à écouter, à étudier, à comprendre. Et quand on a eu la cérémonie d'ouverture en 79, moi je me rappelle deux discours qui m'avaient beaucoup ému et beaucoup frappé. L'une de Madame Weiss.
Mesdames et messieurs, les élus de l'Europe, les étoiles du destin et les chemins de l'écriture m'ont mené à cette tribune pour y vivre, présidente d'un jour, un honneur dont je n'aurais jamais osé rêver, et une joie, la joie la plus forte que puisse éprouver une créature au soir de son existence, la joie d'une vocation de jeunesse miraculeusement accompli. Il me semble, en cet instant, n'avoir jamais traversé le siècle et sillonné le monde que pour venir à votre rencontre.
Et le jour après, l'intervention de Simone Veil, élue présidente du Parlement européen.
C'est un très grand honneur que vous m'avez fait en m'appelant à la présidence du Parlement européen. Aussi, l'émotion qui est la mienne, en prenant place à ce fauteuil, est-elle plus profonde que je ne le saurais l'exprimer. La novation historique que représente l'élection du Parlement européen au suffrage universel, chacun de nous, quelle que soit son appartenance politique, a conscience qu'elle se produit précisément à un moment crucial pour les peuples de la communauté. Tous les États membres de celle-ci sont en effet aujourd'hui confrontés à trois défis majeurs, celui de la paix, celui de la liberté, celui du bien-être. Notre Assemblée est dépositaire de la responsabilité fondamentale de maintenir, et cela, quelles que soient nos divergences, cette paix qui est probablement, pour tous les Européens, le bien le plus précieux. Le second défi fondamental, c'est celui de la liberté. Sur la carte du monde, les frontières du totalitarisme se sont étendues si largement que les îlots de la liberté sont cernés par ces régimes où règne la force. Notre Europe est l'un de ces îlots. Enfin, l'Europe est soumise au grand défi du bien-être. Tous les pays d'Europe sont aujourd'hui confrontés à une sorte de guerre économique qui a débouché sur le retour d'un fléau qui était oublié, le chômage, comme sur la mise en cause de la progression des niveaux de vie. Et pour relever les défis auxquels l'Europe est confrontée, c'est dans trois directions qu'il nous faudra l'orienter. L'Europe de la solidarité, l'Europe de l'indépendance, l'Europe de la coopération.
Donc, l'impact a été très fort pour moi. Et je répète, pour moi, c'était la seule institution, évidemment, à suffrage direct. Et pour moi, ça a été une école formidable. Parce que je venais d'Italie, évidemment. Déjà, mon arrivée à Rome, ça avait été... et à Bruxelles encore plus, tout était nouveau pour moi. Les différents thèmes débattus de 15 points de vue, de langues différentes qui traitaient les mêmes thèmes avec des points de vue différents. Donc ça apprend beaucoup de choses. Pour moi, c'était tout nouveau, donc j'écoutais beaucoup. Et quand on m'a élu au Parlement européen, je pense que c'est là que je suis devenue convaincue.
Trois femmes.
Je souhaite que ce que je fais donne du courage à toutes les femmes qui pensent encore, parce qu'on leur apprend ça, que pour faire de la politique, il faut avoir beaucoup étudié. J'espère au moins de donner cette signification-là à ma présence et à ma bataille en tant que femme.
Trois paroles de femmes. En 1979, c'est rare pour être noté. Alors je me dis que finalement, ces élections méritent quand même un peu d'attention.
Donc, ouais, mais sur le côté femme, cette contamination, à mon avis, était très positive. Et ça continue à l'être.
Si les femmes y voient une possibilité de s'exprimer, de porter leurs idées et leurs combats à l'échelle européenne, c'est qu'il y a sûrement un peu plus que les discours des vieux classiques de la politique veulent bien nous faire croire. Jacques Chirac en tête.
Il y a une ambiguïté fondamentale et le Parlement ne peut pas, en tous les cas pour ce qui nous concerne, prendre la responsabilité de mettre en cause dans cette ambiguïté ou de risquer de mettre en cause dans cette ambiguïté la souveraineté nationale et notre indépendance nationale.
Car oui, en 1979, si le mot eurosceptique n'existe pas, on craint déjà la perte de notre souveraineté nationale ou que la France ne s'efface dans l'Europe et blablabla et blablabla. C'est vrai en France, mais c'est vrai aussi en Italie et ailleurs dans les 9 pays alors membres de la communauté européenne. Je suis d'ailleurs assez surprise lors de mes recherches de voir que déjà à l'époque, les campagnes électorales sont avant tout nationales sur des problématiques nationales. À se demander si l'Europe politique existe.
Comme toujours, et comme ce sera malheureusement même cette fois, les élections européennes sont toujours débattues sur des questions toutes italiennes. Ça, ce n'est pas seulement en Italie, je pense savoir que c'est un peu partout. Et ce sera comme ça même la prochaine fois, même si... Évidemment, ce serait très important d'aborder des discussions fondamentales pour l'Europe et pour le monde qui nous entoure. Mais à niveau de sentiment, je pense que ce sera pareil sur des thèmes nationaux et des polémiques nationales. Je disais presque la seule institution démocratique élue par les citoyens. Même si, je répète, normalement sur des thèmes nationaux, un peu partout. Ce qui enlève un peu d'importance, évidemment, au thème de l'Europe, auquel moi je suis très affectionnée.
D'ailleurs, après ces premières élections, les parlementaires européens vont hésiter. Doivent-ils s'asseoir par nationalité pour représenter la coopération d'État-nation ou par groupe politique pour montrer la fédération d'États aux intérêts communs. En 1979, le Parlement européen n'a quasiment aucun pouvoir. En gros, et pour vous donner quelques éléments, le Parlement européen, c'était 410 sièges d'eurodéputés contre 705 actuellement et 720 en 2024. 9 pays représentés, la France, l'Allemagne de l'Ouest, l'Italie, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni. Un pouvoir consultatif auprès de la Commission européenne et du Conseil de l'Europe. Autant vous dire, aucun pouvoir ou presque.
Mais vous croyez que le peu de pouvoir dont dispose cette Assemblée vous permettra d'avoir des discussions de fond sur ces affaires-là ?
Ça dépend aussi de volonté des autres membres du Parlement. Moi, je souhaite que ça devienne, que ça reste pas tellement une assemblée consultative, parce que vraiment, j'ai pas de conseils à donner à personne. D'autant plus que les gouvernements, ils vont jamais écouter. Mais vraiment, je souhaite que ça devienne un lieu de vrai débat public avec des pouvoirs réels.
Le Parlement européen, c'est donc un pouvoir consultatif et non un vrai lieu de débat public. Alors évidemment, en 1979, les élections européennes ne sont pas super vendeurs pour des électeurs et des électrices. Et je commence à mieux comprendre pourquoi personne ne s'en souvient vraiment dans ma famille. Et d'ailleurs, quand on y pense, ce n'est pas super vendeur non plus pour les candidats. Emma Bonino, quand elle se présente, est déjà députée italienne et siège au Parlement italien. Alors pourquoi se présenter aux élections européennes quand on a un mandat national qui semble beaucoup plus prometteur à l'époque ?
Les compétences, disons, du Parlement européen ont beaucoup avancé, surtout en thème budgétaire. À l'époque, le Parlement européen n'avait pas beaucoup de pouvoir, mais petit à petit, disons, il a obtenu plus de compétences, même s'il manque encore une capacité d'initiative législative, mais quand même maintenant, il est un copartenaire sur la question budgétaire, qui est une des questions les plus importantes, évidemment, pour l'Europe. Pour le reste, je suis désolée, mais il faut changer les traités.
Vous l'avez compris, Emma Bonino a tout juste 31 ans, ne compte pas prendre une retraite politique anticipée, comme le mandat européen pouvait être parfois perçu à l'époque. Elle a été candidate et élue députée européenne pour faire bouger les choses.
Je pense que 1979, ça a dû être une bonne année pour vous, parce que vous avez pu introduire au Parlement européen un peu d'agitation, un peu de pagaille, pour tout dire, comme au Parlement italien.
Mais je ne crois pas que nous, on introduise la pagaille, c'est que les autres, ils sont, à mon avis, beaucoup trop calmes, presque mortes, je dirais.
Et c'est exactement ce qu'a fait cette nouvelle assemblée fraîchement élue, ou du moins une partie, dont Emma Bonino. En fait, pour comprendre l'intérêt du Parlement européen, il fallait moins interroger les hommes politiques de l'époque, mais bien plutôt les premiers qui ont eu à partager cette vision. Ceux sur qui vivait cette communauté et ses échanges au quotidien. Je veux parler des mineurs et des sidérurgistes de la CECA. CECA, Communauté européenne de l'acier et du charbon. C'est ce que me raconte Patrice Garnier, ancien secrétaire confédéral de la CFDT.
Si vous voulez, moi, à l'époque, même peut-être encore maintenant, je ressens une... non pas une contradiction, mais une opposition. Parce que le grand discours, c'était l'Europe, c'est la paix, l'Europe, c'est ça qui va éviter les guerres. Et en même temps, l'outil pour faire progresser ça, c'était quoi ? Le marché commun, ou réconcilier ces deux idées-là n'est pas évident. Et peut-être que l'élection au suffrage universel, c'était le premier pas pour faire se rencontrer ces deux approches, l'une assez théorique de dire ben c'est l'amitié franco-allemande, et puis au-delà de tout ça, la paix en Europe, ou du moins la coopération, et puis une approche assez technocratique, on va dire, ou technique, ou opérationnel, ou à la Jean Monnet, de faire progresser ça en gros sans le dire, quoi. Parce que ça, on pensait que c'était trop difficile et c'est vrai que il y avait encore des sentiments. Je me souviens d'un grand syndicaliste qui était beaucoup plus proche des TUC, des syndicalistes britanniques, et qui avait été un résistant qui avait du mal à digérer la relation avec les Allemands. Voilà. Pour lui, c'était un effort rationnel pour dire oui, c'est bien. Mais c'était pas un truc spontané. Tandis que les sidérurgistes ou les mineurs lorrains notamment, pour eux, c'était une histoire proche, celle de leur territoire. Et puis il y avait des échanges, il y avait des tas de choses comme ça.
Et lui aussi se souvient de cette première élection européenne.
J'ai pas un souvenir précis du moment où j'ai glissé mon bulletin de vote, mais j'ai un souvenir antérieur au moment où le Conseil européen a décidé le principe du vote au suffrage universel. Et puis, de la mise en œuvre de cet acte, donc c'est peut-être en 78 ou quelque chose comme ça, qu'en France, ça s'est déroulé, et que, à la CFDT, à l'époque, on s'est dit, mais alors, c'est quoi ça veut dire quoi, voilà. Et moi, j'étais sur une ligne très, très claire, qui était de dire, ben, pour une fois, un machin intergouvernemental va devenir un truc de la citoyenneté, va devenir un truc qui nous implique, on va participer. Et pour moi, en tout cas, mais aussi pour l'organisation, après débat, ça a été de dire, en fait, ça change la nature de l'Europe. Pour moi, c'est ça, ça change la nature de l'Europe. Un Parlement, c'est quelque chose de très important, parce qu'un Parlement dans notre tête, c'est quelque chose qui a été consubstantiel à la République, consubstantiel au fait de... Voilà, donc le fait que ça soit maintenant dans notre main et dans notre bulletin de vote, ça change beaucoup de choses.
Je récapitule. 10 juin 1979, première élection européenne au suffrage universel direct. Et le constat, c'est que personne ne s'en souvient, ou presque. Le Parlement européen est la seule institution européenne élue qui fait concrètement participer les citoyens et les citoyennes. Ces élections changent la nature du projet européen. On reprend le pouvoir. Problème, le Parlement européen à ce stade n'en a pas. Si on regarde cela un peu froidement, on commence à comprendre pourquoi ces élections ne connaissent pas une vague d'engouement. Si même à la première édition, les partis politiques ne voient pas le caractère historique et révolutionnaire d'une telle institution, si les citoyens ne se sentent pas concernés, alors quoi dire? Et je me répète, mais une élection directe au suffrage universel d'une institution supranationale, ça n'existe nulle part ailleurs. Donc rien que ça, on aurait pu faire un peu de pub. Ou du moins être un peu fiers, nous, les Européens. Et pourtant, les messages sur lesquels on tourne en rond, c'est la crainte de la perte de notre souveraineté nationale. Assis accroché, comme à un doudou. Quelque chose qui nous calme et nous rassure. Quand je soulève cela à Emma Bonino, elle tape du poing sur la table.
Moi, j'ai pas d'autre idée. C'est la plus belle, disons, qu'on a eue. Difficile à joindre, d'accord. Dès lors, disait que l'Europe est comme une bicyclette. Tu peux pas t'arrêter, parce que comme une bicyclette, si tu t'arrêtes, tu tombes. Donc, même avec beaucoup de fois de frustration, etc., etc., il faut continuer parce que c'est le seul destin pour nous. J'en ai pas d'autre. Il y en a pas d'autre. Donc l'Europe peut plaire ou pas plaire, mais c'est un destin. De toute façon, comme c'est notre destin et le seul, il faut y travailler pour le rendre plus efficace, plus proche des citoyens. Il faut avoir un peu de mémoire pour regarder le futur.
Revenir en 1979, à la date des premières élections européennes, est une façon de nous rappeler les évolutions de notre communauté européenne et de ses institutions. D'un Parlement européen nommé par les gouvernements à un Parlement européen élu. D'un pouvoir consultatif limité à un pouvoir législatif et budgétaire. De représentant effacé à l'incarnation de leader européen. Si l'idée de l'Europe est partie de la vision de quelques hommes et femmes, elle est aujourd'hui devenue une réalité partagée par tous.
Ce que disait Helmut Schmidt, qui a dit un jour, l'Europe a été la vision de très peu de gens, était devenue la réalité pour beaucoup de gens et sera une nécessité pour tout le monde. Et je pense qu'on est entre les deux finales. C'est une réalité pour beaucoup de gens. Et je pense que très tôt, il faut comprendre que c'est une nécessité pour tous.
Le 9 juin 2024, nous nous apprêtons à voter pour la 10e fois aux élections européennes. Et il me semble que 1979 n'est pas si loin et que les enjeux d'alors font écho aux enjeux que nous traversons aujourd'hui. Pourquoi voter aux élections européennes ? Pourquoi faut-il prendre part à cette élection à venir, la 10e élection supranationale au suffrage universel ?
Si vous regardez le monde comme il est en plein chaos, l'Europe reste un symbole de liberté. Et beaucoup de monde veut entrer en Europe. Et nous, les citoyens européens, très souvent, par contre, on s'acharne contre l'Europe. Mais dans ce monde chaotique, j'ai l'impression que renforcer l'Europe, c'est peut-être, disons, une possibilité pour le futur des jeunes et des enfants d'aujourd'hui.
Pour conclure cet épisode, j'avais envie de vous partager une phrase extraite des mémoires de Jean Monnet.
Unir deux peuples est une idée simple à laquelle l'esprit résiste en temps normal, mais qu'une extrême nécessité fait apparaître souhaitable. C'est une question d'heure.
Est-ce que nous ne ferions pas, de 2024, cette extrême nécessité, comme un rattrapage de l'histoire ? Ma génération, la vôtre aussi peut-être, n'a jamais participé à la construction européenne. Et à l'heure des hommages aux anciens grands hommes du projet européen, n'est-il pas temps de prendre les rênes et les responsabilités ? Alors, pourquoi irez-vous voter le 9 juin 2024 ? Merci à Léon, Emma Bonino et Patrice Garnier d'avoir accepté de partager leurs souvenirs de cette première élection européenne. Cet épisode est le premier de la nouvelle série d'Europe et sentiments, spéciale élection européenne. Chaque semaine, je vous embarque dans l'histoire de ces élections souvent mal aimées, mais surtout trop peu comprises, à travers les témoignages de personnalités politiques et de citoyens européens. Cet épisode a été écrit, produit et réalisé par Laetitia Chabanne. Le montage et mixage est d'Axel Legroux. La musique originale a été composée par Arnaud Paskevitch. Europe et Sentiments est un podcast indépendant. Cette nouvelle saison a été rendue possible grâce au soutien du Parlement européen et de la Fondation Hippocrène. Pour connaître tous les événements de cette campagne européenne, nous vous invitons à vous rendre sur le site ensemble.eu. Et pour vous tenir informé de la sortie de nos prochains épisodes, pour participer à nos événements ou pour soutenir ce projet, rendez-vous sur le site europeetsentiments.com ou sur sa page Instagram. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.
Namur.